Scene one, Apple, take two.
En direct de Cannes, voici La Passion du 7e art.
Bonjour à tous, on se retrouve sur la terrasse du Palais des Festivals. Un temps venteux aujourd'hui après les pluies qui nous ont pas épargné ces derniers temps. Mais on va essayer de vous présenter quelques petites choses et vous verrez qu'il y a peut-être dedans quelques pépites. Alors, le premier film en compétition, c'est Romeria, c'est de la réalisatrice catalane Carlo Simone, qui a accompli des débuts fracassants avec ses deux premiers longs métrages, été 93, Goya du meilleur nouveau réalisateur, et puis doublement primé à la Berlinale de 2017, et Nos Soleils, Ours d'Or, à la Berlinale de 2022. Donc c'est quelqu'un qui nous vient de l'Est, de Berlin, qui maintenant entre directement en compétition officielle au Festival de Cannes. Le Festival de Cannes essaie de récupérer les stars ou les réalisateurs ou réalisatrices qui se sont distingués dans d'autres festivals. Et c'est de bonne guerre. Et là, avec Romeria, elle est en quête d'une étudiante, la quête initiatique d'une étudiante qui part sur les traces de sa famille biologique à Vigo, en Galice. C'est un peu répétitif, on s'y perd un peu dans les choses trappes, dans les vérités, les non-dits, et surtout les contre-vérités. Et c'est porté par deux acteurs, deux interprètes débutants, Lucia Garcia et Miguel Robles. Ça nous a pas laissé un grand souvenir, ce film. Donc on a beaucoup d'autres choses à vous parler aujourd'hui. Donc on va passer plutôt à The History of Sound. C'est un film aussi en compétition. C'est l'adaptation d'une nouvelle du même nom de Ben Chatuk. C'est un film du réalisateur sud-africain qui vit en Amérique, Oliver Hermanus. Alors ce sont deux jeunes gens qui sont férus de musique folklorique qui décident d'enregistrer des chansons de ce patrimoine en voie d'extinction dans une zone rurale de la Nouvelle-Angleterre au lendemain de la Grande Guerre. Voilà, c'est porté par deux comédiens extraordinaires. Le premier, c'est l'acteur britannique Joss O'Connor, lauréat du Golden Globe pour la série The Crown. Et le second, c'est un Irlandais, Paul Mescal, qui a été nommé à l'Oscar du meilleur acteur en 2023 pour After Sun de Charlotte Wells. Voilà. C'est donc une histoire d'homosexualité, une histoire d'amitié aussi, c'est une histoire de musique, de complicité musicale, dans un moment, 1917, où ce genre de choses, l'homosexualité n'est pas bonne à dire ni à présenter ou à s'afficher. C'est un film doux, calme, qui porte de beaux sentiments par rapport à d'autres choses beaucoup plus violentes qu'on a pu voir au Festival de Cannes. On doute quand même que The History of Sound fasse partie du palmarès du prochain Festival de Cannes. Alors, on va terminer avec la compétition officielle, avec Valeur Sentimentale, et oui, le film du cinéaste norvégien Joachim Trier, qui faisait figure avant le Festival de Cannes comme un possible favori, et il ne nous déçoit pas. Joachim Trier, on le connaît, il avait fait Oslo 31 août, le remake de Feu Follet, Un Certain Regard en 2011, puis Back Home en compétition en 2015, et enfin Julie en 12 chapitres qui avait valu à son interprète et muse attitrée le prix d'interprétation féminine en 2021, c'est-à-dire Renate Renze, qui est encore ici l'actrice principale du film. Elle est confrontée à Stellan Skarsgård, qui joue le rôle de son père, un réalisateur de cinéma qui souhaite se relancer après avoir pendant 10 ans quitté les salles obscures et qui souhaite faire un film quasiment autobiographique sur sa fille qui est également comédienne et donc qui pourrait jouer ce rôle principal, mais elle le refuse et donc il va demander à Elle Fanning et le film donc raconte cette histoire de cette proposition artistique et aussi des deux filles qu'a eu donc ce père campé par Stellan Skarsgård, magnifique, et qui à la mort de leur mère ressurgit dans leur vie. Voilà. Donc c'est un film que un petit peu peut-être un peu long, hein, 2h40, mais il y a beaucoup de films longs cette année en compétition. Mais c'est surtout un film qui nous a bouleversés. C'est un film qui parle de cinéma. C'est un film qui parle de la relation père-fille. C'est un film sur également l'absence, sur la trahison, sur la violence à l'intérieur des couples, sur aussi la violence des mots, parce que même certains dialogues qu'il peut avoir ce père avec ses filles ne sont rien d'anodin et sont peut-être plus violents qu'une claque. En tout cas, cette valeur sentimentale, là, on peut vous dire que ce sera probablement au palmarès et ce sera que justifié. Il fait partie, valeur sentimentale, puisqu'on est quand même à 2 jours de la fin, avec les 5 autres films que nous avons beaucoup aimés. Les 2 procureurs de Sergueï Ionita, qu'on verrait bien un prix d'interprétation masculine pour l'acteur principal. Dossier 137, qui pour nous est une palme d'or ou un grand prix du jury de Dominique Moll, le réalisateur français. Nouvelle vague de l'américain Richard Linklater, qui était vraiment un coup de passion. Et qui aussi pourrait être candidat à la Palme d'Or ou un Grand Prix du jury. L'agent secret qui pourrait valoir à Kleber Mendoza Filho, le Brésilien, un prix du meilleur réalisateur ou de la meilleure réalisation. Les Aigles de la République de Tariq Saleh qui pourrait lui valoir un prix du jury par exemple. Ou Un Simple Accident de Jafar Panahi qui mériterait un autre prix du scénario, voire plus, voire même la Palme d'Or, pourquoi pas. Il y a Fury de Mario Marton que l'on met à part, c'est pas l'un de nos coups de passion, mais Valeria Golino est tellement bien dedans qu'un prix d'interprétation féminine serait tout à fait normal. Et enfin le dernier film, Valeur Sentimentale, que l'on verrait bien en Grand Prix du jury ou en Palme d'Or. Alors pour terminer cette chronique, je vais vous parler de 2 films. Tout d'abord de Homebound. Homebound, c'est un film indien de Neeraj Gaywan sur 2 jeunes gens qui veulent devenir, qui veulent sortir de leurs conditions misérables et des humiliations qu'ils subissent du fait de leurs conditions, de leur caste et de leur religion musulmane. Et ils veulent entrer dans la police pour avoir le respect de leurs voisins et de leurs amis. Alors, Neeraj Gaywan, on le connaît, il avait présenté en 2015 Massan à un certain regard. Et ici, il passe un cap, on pense, avec Homebound, avec un film vraiment en forme d'épopée, qui termine au moment de la crise du Covid, et qui franchement nous a bouleversés, dans le bon sens du terme, parce que c'est l'Inde qu'on connaît, mais c'est un voyage aussi, le Festival de Cannes, à travers le monde. Et là, on voit bien que le travail de Neeraj Gaywan est un travail en profondeur, avec un sens du timing, de la mise en scène, du scénario, de l'interprétation. L'interprétation, justement, c'est un mannequin Ishan Kater et Vishal Chetwa. Il faut savoir, comme l'a dit Thierry Frémaux lors de la présentation de ce film, Un Certain Regard, où il devrait être primé, et pourquoi pas le Grand Prix d'Un Certain Regard, que les acteurs, le réalisateur qui était sur scène, les comédiennes, la comédienne également, sont de véritables stars en Inde. On rappelle que l'Inde reste le premier pays du monde en matière de cinéma, puisque c'est ce pays qui fait le plus de films au monde. Voilà. Donc Homebound, il faudra suivre ce film quand il sortira. Il est distribué par Ad Vitam, dont on salue quand même le courage, puisque à ce Festival de Cannes, ce distributeur français a signé 7 films, peut-être même un 8e, dit-on. Donc c'est aujourd'hui le principal distributeur des films du Festival de Cannes. Ça prouve la bonne santé d'Ad Vitam. Et puis un dernier mot, parce qu'on peut pas passer à côté d'une séance spéciale avec un documentaire sur Julian Assange, avec The 6 million billion dollar man. Pour nous journalistes, Julian Assange, ça doit être un modèle pour tous. Un modèle d'intégrité, un modèle de perfection, un modèle d'investigation. Et The 6 billion dollar man, est vraiment un travail énorme qui a été fait. C'est vraiment dire que ce festival de Cannes, on l'avait dit hier, était peut-être un peu faible. Et bien là, aujourd'hui, on reprend notre décision en disant que peut-être effectivement, vers la fin, il va nous donner le meilleur. Et là, franchement, le film d'Eugène Jarecki est un travail énorme de plus de 2h10 et qui nous fait visiter donc les dessous de WikiLeaks, qui a révélé en 2010 par exemple les crimes de guerre perpétrés par l'armée américaine et ses alliés en Irak ou en Afghanistan, et qui a valu à William Assange une condamnation potentielle à 175 ans de prison. Aujourd'hui, on est content qu'il soit libre après 14 ans d'enfermement, notamment dans l'ambassade de l'Équateur, où si le président coréen le protégeait, son successeur non, et qui s'était fait acheter par les Américains avec un prêt pour son pays à 6,5 milliards de dollars. Donc voilà, il y a des images d'archives qui sont fabuleuses de WikiLeaks, des preuves inédites, des témoignages aussi. Franchement, c'est un film à découvrir et on croisera notamment Edward Snowden et Pamela Anderson et Lady Gaga, qui sont toutes des soutiens de Julian Assange. Et nous, on a passé un moment extraordinaire de découverte de ce qui se trame sous WikiLeaks et on est très fiers de Julian Assange. Voilà, on voulait le dire. Et moi, je vous retrouve demain pour d'autres aspects de Cannes, critiques des films et présentation de ce qui se passe dans les dessous des coulisses du festival. Et restez fidèles à la passion du 7e art.